Cours de philosophie éthique du Père Marie-Dominique Philippe, le 27 juin l'an 2000 à Saint-Gédard.
L'amour d'amitié, pour pouvoir se maintenir, pour pouvoir grandir, exige la prudence. Parce que lorsque on aime de la même manière la fin et les moyens, on nivelle. C'est terriblement fatigant, des mentalités horizontales. On ne voit pas que la finalité a un primat. La finalité est la seule chose qui nous repose. Les moyens nous agacent. C'est sûr, hein? C'est relatif. Et puis ça peut se briser dans nos mains. Alors, qu'est-ce qui permet le repos? C'est le primat de la finalité. La finalité, l'amour de la fin. La fin est toujours une personne. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est une personne qu'on aime. C'est très curieux de remarquer comment, quand la prudence n'est plus suffisante, il y a une fatigue intellectuelle très grande. Parce que il y a un nivellement qui se fait. La finalité ne nous repose plus. On ne se repose plus. La prudence permet donc, comme une sagesse pratique, d'ordonner tous les moyens qui sont à notre portée pour atteindre la fin, de les voir, de les considérer et de voir toujours celui qui est le plus proche de nous, le plus immédiatement accessible et que nous devons choisir pour atteindre notre fin. Vient ensuite, comme vertu fondamentale sur laquelle nous basons notre vie, nous fondons notre vie humaine, c'est la justice. La justice est une vertu qui nous fait respecter l'autre, les droits de l'autre, les droits à être quelqu'un. Tout simplement, il existe. Si on avait un sens très aigu de la justice, on serait toujours très respectueux de l'autre, celui qui est à côté de nous, et on ne prendrait pas toute la place quand on est trône. On prend une place sans gêner l'autre, et on fait ça, on dirait, parce que c'est des mesures de politesse. C'est la justice. Il a autant de droits à vivre que moi. Il a l'avantage d'être à l'extrémité. D'un côté, il est libre. Moi, je suis encerclé. On voit tout de suite ça, les situations des autres. Et on respecte le droit, le jus. C'est très difficile à préciser, le droit. J'ai droit à la vie. Puisque je suis un vivant. Le vivant spirituel a le droit à la vie. Est-ce que l'animal a un droit à la vie? Le crapaud, est-ce qu'il a un droit à la vie? Est-ce que la mouche, elle a un droit à la vie? Et il n'y a qu'un être rationnel, intellectuel, qui comprend d'avoir le droit. Le droit est une relation entre ce que je suis et telle réalité qui m'est nécessaire à mon être, à mon existence, à ma croissance. J'ai le droit à la nourriture. Vous savez bien, ce type qui, en prison, parce qu'il a volé du pain à la boulangerie, sans avoir l'argent, dit au juge, « Monsieur le juge, vous auriez été dans mes conditions, vous auriez fait comme moi. » Ordinairement, il y avait la caisse en plus, c'est cette chose, on n'en parle pas. Mais on a le droit à vivre. Quelqu'un qui n'a rien mangé, qui meurt de faim et qui voit une boulangerie devant lui et qui n'a pas le sou, aurait le droit de prendre un petit pain. Vous voyez comme c'est difficile à apprécier, hein ? Le droit à la vie, le droit à la nourriture, le droit à se reposer, à garder une vie et avoir le point de vue de la justice, regarde le ius en latin. Le ius se traduit, qui se traduit par le droit. Vous avez des droits naturels, même comme novice. Et si on vous traite comme un esclave, vous êtes quand même, je suis un homme libre. La liberté demeure. Alors, on distingue différents droits. Le droit dit la justice commutative. Donnant, donnant. Il y a comme une espèce de contrat tacite. La justice consiste à, si vous prenez quelque chose, un journal, une revue, là, un livre, le prix. On a évalué le prix. Donc il y a un contrat qui fait que vous versez l'argent pour un paquet de cigarettes. Le droit. Donc, c'est la justice commutative. Donnant, donnant. On s'entend. Je vais travailler une heure pour vous. Eh bien, vous me donnerez un repas pour que je puisse manger. Et on échange comme ça. Il y a la justice distributive, alors, qui est déjà beaucoup plus qualitative. La justice commutative, c'est donnant, donnant, c'est quantitativement. Il y a des choses qualitatives qui interviennent, mais c'est nettement quantitatif. C'est le droit de chacun. La justice distributive regarde les qualités de la personne. Vous payez la vie d'un médecin. Autant possible, il est là pour vous guérir. S'il ne vous guérit pas, vous n'attendez pas d'être guéri pour payer le médecin. Si on attendait de guérir pour payer le médecin, le pauvre médecin. Et vous payez sa visite. Et quelquefois, il se trompe. Parce qu'il a fait des études. Qu'il a une connaissance que vous n'avez pas. Et que vous participez à cette connaissance qui, dans sa vie, va coûter très cher. Alors, quelqu'un de qualité peut donner son temps à quelqu'un qui soit moins qualitatif que lui, ou qui soit aussi qualitatif que lui, et vous respectez cette dignité. La justice commutative regarde la dignité de la personne humaine. Un acte fait par telle personne prend une signification spéciale si cette personne est une personne très en vue, une personne très responsable. Ça prend tout de suite une autre valeur. Quelqu'un qui, au contraire, n'a aucune dignité spéciale. Du fait qu'il n'y a aucune dignité spéciale, on le regarde uniquement sa nature humaine. Qu'est-ce qui est dû à sa nature humaine ? Vous voyez, il y a la personne et la nature. La justice commutative, c'est toujours l'aspect de la nature. La justice distributive, c'est la personne. La nature humaine a ses droits et la personne humaine a des droits personnels auxquels on doit être très attentif. Par exemple, pour un gosse, frapper un autre gosse ou frapper son père, c'est pas la même chose. Et alors, tout de suite, si on manque de respect, on manque d'amour vis-à-vis de quelqu'un qui, vis-à-vis de nous, a une grande dignité, on est dépassé. Réparer l'injure de quelqu'un, réparer ça, satisfaire la satisfaction, satisfaire à ses droits violés, et le remettre, ça dépend beaucoup de la dignité de la personne. Vous voyez, quand cette personne est Dieu, les droits sont infinis. J'ai tout de suite à l'infini. La question des droits est moralement très importante. Le droit d'une personne, le jus. Savoir quels sont les droits naturels et quels sont les droits conventionnels. Dès qu'il y a une communauté, un droit conventionnel, le vicaire a une dignité particulière. C'est un droit conventionnel. Le gendarme a une dignité particulière, et ainsi de suite. La convention. Et puis il y a aussi la justice légale. Donc il y a deux justices qui regardent les personnes, la justice communautaire, la justice distributive, la justice commutative, la justice distributive. Et puis la justice légale, dès qu'il y a une communauté, il y a des lois. On obéit à ces lois si on fait partie de cette communauté. Et ces lois nous obligent à agir de telle manière. Ou les coutumes d'agir de telle manière. Si on ne suit pas cela, on commet une injustice à l'égard de cette communauté, à l'égard de la loi, qui est là pour nous rappeler ce qu'on doit faire dans telle communauté. On n'agit pas de la même façon au noviciat en dehors du noviciat. C'est curieux. On n'agit pas de la même façon si on est marié ou célibataire. On n'agit pas de la même façon si nos parents ont une dignité spéciale au point de vue civil. Le maire d'un pays doit agir comme cause exemplaire. Et vis-à-vis de lui, il y a des droits spéciaux. Oui. Alors, on distingue ordinairement, Aristote a fait ça et saint Thomas le fait la même chose, en montrant ces trois, justice commutative, justice distributive, justice légale. Et dans la justice légale, il y a beaucoup de demeures. Hein. dès qu'il y a une communauté, il y a des lois. Ceci permet de respecter les droits de l'individu et de la personne. Bon. Si, dans l'amour d'amitié, on doit respecter profondément l'ami, le respecter comme homme, le respecter au meilleur de la nature humaine, si on doit le respecter comme personne, si on doit le respecter parce qu'il est gendarme, vous voyez comment la justice intervient tout de suite au point de vue de la communauté, à tel point qu'on pourrait se demander si la justice n'est pas le fondement de la vie morale. On pourrait se le demander. Et non pas l'amitié. Est-ce qu'il n'y a pas entre justice et amitié les rapports qui existent entre finalité et fondement? Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Quand on ne respecte plus le prochain, quand on ne respecte plus l'homme, on est anarchique. Donc, la société, la communauté, se fonde sur la justice. Il faut voir dans Platon, dans la République de Platon, la place très importante de la justice. Et dans certaines formes de gouvernement, la justice prend un rôle principal. Dans tout État socialiste, la justice est capitale. Le fondement s'érige presque comme la loi principale. Alors on peut dire que la justice et fondement de toute communauté. Toute communauté humaine se fonde sur la justice. Et si vous supprimez la justice, vous supprimez le fondement. Et que l'amitié, elle est le fondement de la morale personnelle et pas la justice. Parce qu'il faut la finalité. La justice ne me fait pas atteindre la fin. Elle me fait respecter le droit commun, qui est une certaine fin au point de vue communauté, mais qui n'est pas une fin personnelle. Alors la justice me fait respecter le bien commun. Elle est une condition sine qua non pour qu'une communauté puisse exister. Si on vit ensemble sous le même toit, à plusieurs, il faut qu'on respecte la justice. C'est-à-dire qu'on respecte les droits de l'autre. Vous êtes à deux ou trois, il faut être trois pour former une communauté. Il y en a un qui s'endort très vite le soir, l'autre qui aime de travailler le soir. Et le matin, il fait grasse matinée, l'inverse. Le troisième, il regarde cela. Si on est amis, on se respecte. On fera que certains jours de désert, on ne fera pas de bruit jusqu'à 10h du matin. On respecte le bien commun, différent. Le bien de l'autre, différent du mien. Et le bien commun, c'est le bien des deux. C'est ni mon bien propre, ni son bien propre. C'est le bien des deux, puisqu'il est commun. Il faut bien. et on arrivera à trouver la possibilité d'un bien intermédiaire qui respecte les deux. Mais dès qu'il n'y a plus ça, immédiatement, ça devient l'anarchie. Alors on tire le plus qu'on peut, c'est celui qui est le plus fort qui l'emporte. C'est celui qui ronfle le plus fort. Tout de suite. Et l'autre se soumet. Mais c'est très bien, mais ça supprime la communauté. Ça supprime le bien commun. On ne peut plus. Chacun tire à lui-même. Et c'est toujours par là qu'un État se détruit. Quand il n'y a plus de justice. Quand le mensonge s'introduit dans le point de vue du droit de chacun, quand le mensonge s'introduit, qu'il n'y a plus cette rectitude fondamentale, c'est très grave. Il n'y a plus de société. Ça devient de l'anarchie. Et on le sent très bien, il y a des partis politiques qui disent partis politiques, des contraires ou bien communs, forcément. Des partis politiques qui, dès qu'ils sont au pouvoir, font que toute la communauté sera sur le pouvoir de ce parti. Et quand les élections se feront, parce que le parti était au pouvoir, il s'est montré détestable, on votera contre lui. Et ça changera complètement. Il faut comprendre que la justice est une vertu. L'intelligence et la volonté, mais de l'intelligence et de la volonté, je veux respecter le droit de l'autre. Et je respecte son droit. Et je fais tout pour respecter son droit. Il n'y a plus d'amitié quand il n'y a plus de justice. Et très souvent, les amitiés périclite à cause de ça. La passion prenant la place de l'amour, on ne regarde plus l'autre, on n'a plus le respect dû et qu'on devrait respecter chez l'autre. La justice joue un rôle extrêmement important pour toute société, toute communauté. C'est une vertu qui n'est pas une fin, n'atteint pas la fin. La justice doit permettre l'éclosion de l'amitié. La justice doit permettre d'avoir une communauté saine qui n'est pas allée d'un sens ou de l'autre, mais qui demeure saine, qui demeure vraie, bonne. Il y a ensuite, puisque prudence et justice sont des vertus de l'intelligence, de la partie noble de nous, de notre être. Notre intelligence et notre volonté. Mais il y a aussi nos passions. Vous avez vu en philosophie du vivant le concupiscible et l'irascible. Et ceci demeure. Le concupiscible, c'est la vertu. C'est du moins le concupiscible, c'est la passion du bien sensible. On se précipite sur le bien sensible. La passion fait ça, exactement comme l'animal. Quand vous apportez un chien sa nourriture, il se précipite. Le concupiscible. Surtout s'il a faim depuis assez longtemps. Alors le concupiscible regarde les biens sensibles, l'honneur aussi est un bien sensible, c'est le premier des biens sensibles, l'honneur. C'est le bien le plus spirituel des biens sensibles. On a le droit à l'honneur, le panache, l'honneur, la fama, la bonne renommée. Attaquer la bonne renommée de quelqu'un, c'est terrible. Empêcher cette personne d'avoir son rayonnement normal, naturel. L'honneur, la gloire, c'est un bien sensible. Puis il y a les biens sensibles moins élevés que ceux-là. La santé, c'est un bien sensible. La nourriture est un bien sensible. Le bon vin est un bien sensible. Toute la question de l'art culinaire qui est fait pour faire que la nourriture devienne davantage un bien sensible. Augmentez ça. Le bien sensible. Et puis, il y a le point de vue des jouissances charnelles. On a la vertu de chasteté. Que les jouissances charnelles soient mesurées et ordonnées vers une fin humaine. Ne pas se laisser prendre par le bien sensible, la jouissance est bien sensible pour elle-même, mais les ennoblir. Le concupiscible est la passion la plus fondamentale en nous. C'est sûr. Elle est bonne en soi. Elle est mauvaise quand elle domine. C'est elle qui prend le levier de commande. Alors vous avez d'être des donjouans au point de vue jouissance sensible. Vous avez ceux qui veulent profiter le plus possible de la nourriture et de la boisson, et ainsi de suite. La fête. Il doit normalement une tête. Doit être une détente vis-à-vis de la vertu qui mesure l'amour des biens sensibles, qui se trouve dans la passion, qui est la tempérance. La tempérance est la vertu qui, de l'intérieur, modifie ma passion de bien sensible et l'ordonne vers une fin plus spirituelle, l'amour d'amitié ou la contemplation. La tempérance est une vertu qu'on acquiert grâce à notre prudence. On voit qu'on peut aller jusque-là, pas plus loin. Autrement, on perdrait la tête, on serait ivre. On n'a pas le droit de perdre la tête parce qu'on aime le bon vin, parce qu'on aime le champagne. On n'a pas le droit de perdre la tête. On n'a pas le droit de s'enfoncer dans des jouissances charnelles. Et ne regarder l'homme et la femme que comme des capacités à me donner ces biens charnels. Les sensibilités qui s'attirent l'une l'autre et qui pourraient être des personnes qui augmentent ça. les gens qui ne regardent que le prochain sous cet angle, c'est terrible. Et c'est comme les animaux. Et la passion de concupiscence peut rendre fou. Quand on voit des gens qui sont entièrement pris par ça, ils perdent complètement la raison, leur intelligence. Enfin, la passion du concupiscible, c'est la passion la plus tenace, la moins noble. On perd toute dignité. Regardez l'alcoolique. Il est esclave de ce bien sensible. Et il fait tout pour augmenter ce bien sensible. Donc, à l'intérieur de la passion de concupiscence, naît en nous, si nous le voulons, si nous le désirons, la vertu de tempérance. Elle est générale, celle-là. Et la vertu de tempérance a une modalité spéciale pour la chasteté par rapport au bien sensible, personnel et sensuel, les jouissances charnelles. À côté de la passion du concupiscible, il y a la passion de l'irascible. Elle cohabite en chacun d'entre nous. Et selon tout un atavisme, l'atavisme joue beaucoup là, on est plus porté au bien sensible, à la jouissance, ou on est plus porté au bien difficile à acquérir. C'est l'irascible. La passion de l'irascible est plus noble que la passion concupiscible. L'irascible a quelque chose d'assez noble, d'assez grand. C'est la passion la plus proche de l'intelligence. Développer l'intelligence développe notre irascible. Les colères des intellectuels sont toujours terribles, plus terribles que les autres. Il y a un instinct de domination qu'on n'a pas toujours lucide là-dessus, mais un instinct de domination qui fait qu'on veut que tout le monde soit soumis. Et quand on ne se soumet pas, on entre en colère. Normalement, la colère, c'est lorsqu'on est en face d'une injustice. Vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'elle est plus noble. Alors l'irascible est là pour rétablir la justice. On veut rétablir la justice à notre manière. Alors, il y a quelque chose de grand dans l'irascible. Et il y a en même temps quelque chose de comique. On a tous eu cette joie un peu sadique de mettre en colère des grands personnages. Des souvenirs comme ça, de pensionnaires, d'écoles, on a mis en colère des gens très respectables. Mais dès qu'ils sont en colère, ils ne sont plus respectables. C'est comme des gens très respectables qui glissent et qui tombent par terre. Là, il y a quelque chose d'anormal. Parce que s'il est respectable, il est droit comme un piquet. Tandis que s'il glisse et qu'il tombe par terre, le piquet tombe. Et dans la colère, on fait ça. Et on s'amuse à faire ça. Quand on est gosse. Et ça dure souvent. Hein. On peut être gosse à 50 ans. Par rapport à la colère. D'éveiller les colères des autres, quand on sait qu'ils sont particulièrement sensibles à ça. Tous des exemples extraordinaires de colère sur ça. La vertu de force vient ennoblir notre irascible. Et la vertu de force nous met au service de réparer les injustices. Les injustices dans tous les ordres. Hein. Des injustices au point de vue social, des injustices au point de vue intelligence, au point de vue de la recherche de la vérité. Tous ceux qui se servent du mensonge pour arriver au pouvoir. Voilà. On termine sur la colère. Et sur la force qui vient tempérer notre irascible. La force, vous voyez, ça montre bien que l'irascible nous donne cette force naturelle. On a des réserves de force très grandes dans notre irascible. Et ces réserves de force très grandes qu'on a dans notre irascible, on s'en sert pour des causes qui soient nobles, qui soient bonnes, qui soient vraies.